I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Blanche n'est pas encore mère et pourtant elle est déjà liée à la maternité. En effet, elle est tombée enceinte une première fois à l'âge de 19 ans alors qu'elle prenait assidûment la pilule depuis quelques années. C'est pourquoi lorsque ses règles n'arrivent pas, Blanche n'imagine pas une seconde qu'elle puisse être enceinte. Il n'y a pas de raison, puisqu'elle a également pris la pilule du lendemain lorsque le préservatif a craqué. Pourtant, le test va afficher très clairement positif et sa décision est ferme et définitive, elle va avorter. Une décision qu'elle ne remettra jamais en question, car c'est son droit, c'est son choix. Quelques années plus tard, rebelote, toujours sous pilule, Blanche découvre un nouveau test de grossesse positif et ne comprend pas comment cela peut lui arriver une seconde fois, alors qu'elle prend toutes les précautions nécessaires. Cette fois-ci, elle va rencontrer des professionnels qui seront à son écoute et qui vont lui soumettre un diagnostic. Blanche est hyper fertile, c'est pourquoi la pilule quotidienne et celle du lendemain ne fonctionnent pas pour elle. Elle repasse une seconde fois par la case avortement, mieux préparée cette fois-ci aux douleurs qui l'attendent. Dans cet épisode, Blanche nous raconte la découverte de ses grossesses, l'impact que cela a eu sur son rapport au sexe, les journées éprouvantes où elle a dû avorter et comment ces deux avortements l'ont rendue plus forte. Bonne écoute.
Bonjour Blanche.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans Le Tourbillon.
Ben merci à toi de me recevoir.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu n'es pas maman.
Non.
Pas encore. Peut-être jamais d'ailleurs, on verra bien. Mais tu as un lien avec la maternité. Et déjà pour commencer, toi, quel est ton regard sur la maternité? Toi qui n'as pas d'enfant, est-ce qu'un jour tu aimerais en avoir? Est-ce que tu ne te poses pas trop la question?
Pour moi, ça a toujours été une évidence. Je serai mère un jour et j'ai eu beau être quelqu'un de très carriériste, ambitieuse, etc. J'aurais réussi ma vie le jour où je serai mère.
Ouais.
Donc ça a toujours été complètement évident pour moi. Je ne sais pas vraiment pour quelle raison, mais même adolescente et même encore plus jeune, je savais que j'avais envie d'être maman, de connaître ça. Et j'ai un lien très fort avec ma mère, ce qui explique aussi peut-être ce ressenti, mais ça a été évident, enfin c'est évident pour ouais. moi qu'un jour je serai mère.
Et alors, donc toi, tu as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 23 ans.
23 ans. Donc tu vas nous raconter pourquoi tu es liée quand même à la maternité ou à la non-maternité.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, ce que tu as vécu. Donc toi, tu étais en couple
Non, du tout. Ce qui a du coup encore plus... Enfin, que cette histoire est un peu particulière puisque j'ai dû gérer ça toute seule en tout cas.
Ouais.
Donc non, je n'étais pas en couple à cette période-là de ma vie quand j'ai dû faire face du coup à mon premier avortement. J'étais en deuxième année de licence, donc quand même très jeune, dans un petit studio à Paris où c'est mes parents qui payaient mon loyer parce que bah, j'avais aucun revenu et que j'étais en plein dans mes études. J'avais à cette époque-là même pas encore 20 ans. Et bon, voilà, j'ai rencontré des garçons, enfin, et notamment un. Et j'ai appris, du coup, quelques semaines, enfin, 2-3 semaines après l'avoir rencontré, que j'étais enceinte.
Alors, comment tu le découvres et comment tu réagis en le découvrant ?
Alors déjà, moi, j'ai été sous contraception assez jeune, puisque je faisais de l'acné. Et mon docteur m'avait prescrit à 16 ans une pilule qui... en même temps ferait effet sûrement sur ma peau, et puisque bah, c'était éventuellement les débuts de certaines relations sexuelles qui me permettraient du coup d'être protégée. Donc je prenais la pilule depuis l'âge de 16 ans, je l'ai toujours prise très régulièrement, enfin je trouvais que c'était un peu une charge mentale quand même de devoir la prendre constamment à la même heure, faire attention, etc. Mais même moi, entre guillemets, à mon époque, alors que je suis quand même jeune, il n'y avait que cette solution-là qu'on me proposait. Donc bon, bah, c'était comme ça. Et j'avais pas grand-chose à dire. Donc j'ai toujours pris la pilule. Je me suis toujours protégée pendant tous mes rapports. Et du coup, vient cette rencontre-là où j'ai un rapport avec ce garçon qui est protégé. Donc aucun problème. Juste le préservatif craque. Donc je me dis, bon, moi je suis protégée. Pour être encore plus rassurée, je vais prendre la pilule du lendemain, sait-on jamais. Mais bon, normalement, il ne devrait quand même pas avoir de problème. Mmh. Donc, je me souviens très bien, je me dirige à la pharmacie en bas de chez moi. Je raconte un petit peu, très brièvement. Elle me dit, vous êtes dans les temps, il n'y a aucun problème, vous la prenez.
Tout va bien se passer.
Mmh. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, bah, moi, je continue ma vie. Et c'est vrai que maintenant, en connaissant tout ce qui s'est passé, il y avait quelques petits signes qui auraient pu, entre guillemets, m'alerter. Mais sur le moment, j'y pensais tellement pas et que c'était tellement impossible pour moi que jamais j'aurais pu imaginer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que j'avais un énorme bleu sur le mollet que j'ai découvert quand j'ai pris ma douche un soir. Mais très, très gros quand même, très imposant et très noir. Donc sur le moment, ça me fait rire en me disant « mais je me souviens pas ». M'être tombée ou m'être cognée à quelque part, c'est quand même très bizarre. Je le touche, il ne me fait pas spécialement mal. Donc avec le recul, je me dis c'est mon corps qui me disait attention, il y a quelque chose qui se passe pas normalement, entre guillemets, à l'intérieur, quoi. Enfin, je le prends comme ça.
Ouais.
Et je devais avoir mes règles à la fin de la semaine. Le vendredi, elles n'arrivent pas, mais bon, elles arriveront forcément le samedi. Le samedi, elles ne sont pas là, mais elles arriveront forcément dimanche. Lundi, toujours pas. Donc là, je me dis, bon, aucun doute, aucun problème, elles vont arriver un petit peu trop tard, ça peut peut-être arriver, j'étais sûrement un petit peu stressée à cette période-là. Et
ouais, tu trouves plein d'éléments.
Voilà, forcément, puisque c'est tellement impossible qu'il y a forcément d'autres raisons qui font que les règles ne sont pas encore arrivées. Le mardi, toujours rien. Donc là, je commence un petit peu à m'interroger.
Parce qu'elles étaient régulières, en plus du fait que tu prennes la pilule.
Elles étaient régulières, j'avais jamais eu spécialement de problème. Alors, à quelques jours près, un ou deux jours, parfois, je pouvais être décalée, mais généralement, c'était quand même toujours assez correctement fait, voilà. Le mardi, toujours rien, donc là, quand même, je me pose quelques questions et je regarde mon application que j'ai pour suivre mon cycle. Et sur mon application, il est marqué 6 jours de retard.
Ouais,
donc ça commence à faire un petit peu. Et en plus, je regarde quel jour a été mon rapport sur mon calendrier. Et c'était la veille de mon jour d'ovulation.
D'accord.
Donc là, je me dis, ça fait un peu beaucoup. Je relis certains événements. Je me dis, bon, il y a quand même un petit truc qui peut ne faire que ça se passe pas bien, mais je reste toujours assez sereine et je me dis bon, je vais faire un test le lendemain, mais pour me rassurer, il sera forcément négatif et au moins on n'en parle plus et ça, voilà.
Ouais. Là, t'as toujours des contacts avec le garçon ou pas ?
Non.
Non, ok.
Enfin, y a pas spécialement d'animosité entre nous, mais voilà, j'ai pas spécialement de contacts et chacun fait sa vie. En plus, il était militaire, donc un peu aux quatre coins du monde. Enfin, donc non, pas spécialement de contacts. Et le lendemain matin, du coup, je me dis, je vais faire un test. J'avais lu que c'était plus fiable de le faire à jeun. Donc, je me dis, bon, bah, dès que je me lève, je vais chercher un test. Pareil, la pharmacie est en bas de chez moi. Je me souviens, je prends ma doudoune. Enfin, très...
T'es détendue à
ce moment-là. Ah oui, vraiment. Enfin, parce que ça allait être forcément négatif dans ma tête. Je me souviens même, la pharmacienne me demande, vous voulez quelque chose d'assez précis? Ou je dis, ah non, non. Alors, ça, il va avoir écrit négatif. Donc, j'ai pas besoin d'un truc high-tech au possible. Et elle me donne ce test, je vais le faire. Et parfois, on nous dit d'attendre 2-3 minutes pour avoir un résultat fiable et tout. Moi, à peine le test fait, il y a une croix tracée au feutre sur le test. Et là, c'est le ciel qui me tombe sur la tête. À ce moment-là, je sais que je suis enceinte. Genre, j'ai pas de doute.
T'es pas dans le déni.
Non, voilà. Je me dis pas, non, c'est pas possible, ou il peut être... faussement positif ou quoi que ce soit. Là, je sais qu'il est positif et qu'il est vraiment positif et que je suis enceinte. Donc là, c'est je me revois sur mes toilettes, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, enfin qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les étapes, parce qu'il était très clair dans ma tête que que je ne le garderai pas. Enfin, c'était ouais. pas possible, autant pour moi que pour lui, entre guillemets. Enfin, c'est pas du tout la vie que je veux offrir, en tout cas, à mes enfants. C'était pas du tout le bon moment, pas du tout la bonne personne. Donc, la question, cette question-là ne s'est pas posée. Mais quelles sont les étapes ensuite? Par où il faut commencer? Enfin, en plus, avec la panique et un peu l'émotion, c'est compliqué de ouais. savoir canaliser et dire « Ok, donc, on va faire ça, on va faire ça. »
Il y a des gens à qui tu peux en parler à ce moment-là?
Ouais. À ce moment-là, j'ai ma meilleure amie en FaceTime. Donc, elle comprend pas. Enfin, j'arrive pas. J'ai les mains, je me souviens, les mains qui tremblent et j'arrive pas à lui verbaliser ce qui est en train de se passer. Et j'avais une autre amie aussi qui était au courant. Et c'est drôle, elle m'envoie un message. Elle me dit « Alors, du coup, comme si... » J'allais lui dire, ah bah c'est bon, il est négatif, quoi. Je lui dis, non, là, il est positif. Ah, ok. Donc, ouais.
Elles avaient déjà avorté ou pas? Non, des personnes
non, non, j'avais, à part du coup, ma sœur, que j'ai appelée 5 minutes après, je connaissais personne autour de moi qui avait avorté. Donc, c'est pour ça aussi, on se sent un peu seul, entre ouais. guillemets, alors qu'on ne l'est pas du tout au final. Mais on se sent un peu seul à se dire, enfin, j'avais l'impression que ça n'arrivait qu'à moi, quoi. Enfin, je me dis, c'est pas. Enfin. S'il arrive à personne d'autre, comment il faut faire? Donc j'avais vraiment ressenti ça. Donc j'appelle ma sœur qui me rassure et qui me dit « Bon, bah, commence par appeler ton gynécologue pour avoir un rendez-vous quand même assez rapidement. » Et voilà, donc c'est ce que je fais. J'ai un rendez-vous le soir même, donc ça, c'est, okay. c'est assez chouette. Et du coup, il m'examine ou il me fait une espèce d'échographie pour confirmer la grossesse. Et là, il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Oui, vous êtes bien enceinte. » Donc là, ça verbalise encore plus ouais. la chose. Et je lui dis « Bon, bah d'accord, mais je ne veux pas le garder. Quelles sont les étapes à suivre ?» Et il me dit « Bon, bah on va attendre une semaine pour voir si le fœtus se développe bien dans l'utérus et que c'est pas une grossesse extra-utérine. » Parce que là, il est encore trop petit, entre guillemets. Et on peut pas, je peux pas prendre le risque de vous faire avorter si c'est une grossesse extra-utérine qu'on n'a pas détectée, etc. Donc c'est un peu compliqué parce que je me dis je vais devoir vivre une semaine.
Ce qui correspond aussi au droit de...
Pour se rétracter ouais. ou pas, pour prendre le temps de...
Il t'en a parlé de ça à ce moment-là ou
pas ? Non, pas tellement, parce que je pense qu'il a quand même, il avait quand même bien compris que mon choix, il était fait. Il n'était pas fait par dépit ou par regret, enfin qu'il était clair dans ma tête et que j'avais aucun problème avec ça. Mais ça me dérangeait un petit peu de devoir attendre autant longtemps et de devoir cogiter du coup sans cesse ouais. sur ça pendant une semaine où je trouve que c'est quand même assez long quand on est sûr de soi. Donc voilà, la semaine passe et c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup d'émotions qui me viennent et il faut apprendre un peu à gérer tout ça. Mais bon, je mène ma petite vie sans rien dire... à personne, enfin voilà, je veux faire comme si rien ne se passait vraiment.
Et tu te dis quoi à toi à ce moment-là, quand tu cogites justement
C'est en fait c'est très contradictoire parce que je suis complètement sereine avec mon choix et en adéquation, mais je me pose des questions. C'est stupide, mais si c'est un garçon, si c'est une fille, si même à quoi il pourrait ressembler, alors que ça me fait pas spécialement mal de me poser ces questions-là, parce que je suis complètement, voilà, comme je disais, c'était ma décision et j'étais très bien avec celle-ci. Mais je me pose des questions ouais, un peu stupides. Et j'avais surtout vraiment l'envie de comprendre ce qui se passait dans mon corps et ce qui s'était passé. J'ai regardé des dizaines de vidéos qu'on peut voir en cours d'SVT sur comment on fait un enfant pour savoir exactement ce qui s'était passé à ce moment-là dans mon corps pour que ça... arrive quoi, alors que j'avais tout fait pour que ça n'arrive pas. Je me dis, ouais. quand je vois cette croix vraiment tracée au feutre sur ce test, je me dis, mais comment c'est possible? Je fais tout pour que ça ne se passe pas, et au final ça se passe. J'ai pris la pilule le lendemain, pourquoi elle n'a pas fonctionné? Ouais. Moi-même j'étais protégée, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et du coup, j'avais trop de questions sans réponse, et j'essayais de trouver ces réponses-là dans des documentaires où ils expliquent tout le fonctionnement de la reproduction et d'un acte sexuel qui amène à une grossesse. Et au final, je trouvais pas vraiment l'explication et je faisais sûrement partie du peu de pourcentage de la population, enfin entre guillemets, où ça arrive. Mais voilà, j'avais vraiment cette incompréhension que je ruminais sans cesse parce que c'était pas possible. Enfin, pourquoi ça m'arrive à moi alors que je ne fais tout pour que ça n'arrive pas ? J'ai un peu ressenti une injustice. Enfin, même si c'est terrible pour tout le monde et il y a des accidents, etc. Mais quand je mets autant de choses en place pour ne pas avoir à vivre ça, c'était compliqué de... Bah, c'est compliqué quand ça te tombe dessus alors que t'avais pas spécialement prévu, quoi. Donc pendant une semaine, c'est beaucoup ça où je regarde des dizaines de reportages, même des cours d'SVT, pour comprendre. J'avais vraiment envie de savoir ce qui s'était passé, limite, jour après jour, dans mon corps. Et voilà, et après, j'avais un petit peu mal à la poitrine. Je me disais, bah, ok, ça, c'était par rapport à ça. J'ai pas des nausées, mais je me sentais un peu barbouillée le matin. Je me dis, bah, okay. Enfin, voilà, je relis plusieurs événements et je me dis, bon, ben, il s'est passé ça tout au long de ce mois, puisque quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais à 6 semaines de grossesse.
D'accord.
Donc voilà, pendant ces quelques semaines, il s'est passé tout ça. Et ça, d'un côté, ça m'a rassurée, mais je... Ok, d'accord, il y a eu ça. De toute façon, j'y peux rien maintenant, c'est comme ça, il va falloir y aller, prendre son courage à deux mains et affronter ça toute seule, puisque à Paris, en tout cas, j'étais seule dans le sens où moi, je suis originaire du sud de la France, donc mes parents et tout étaient chez moi dans le sud, donc...
Tu les as prévenus, tes parents ?
Ma mère, je l'ai appelée 2 jours après, mais pour un problème administratif, hein, rien à voir vraiment avec ça, et comme quoi, une maman ressent... tout, je pense, qu'elle m'a dit, t'as une petite voix, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, très émotive, je fonds en larmes immédiatement. Et donc là, je raconte. Donc elle est très présente, très bienveillante, et elle me dit que, bah, que c'est pas grave, que j'ai la chance de vivre dans un pays où, justement, je peux avoir le choix de choisir ce que je veux. Donc elle me rassure vraiment, et elle me dit, bon, bah, est-ce que t'as la date de l'avortement, donc je l'avais à ce moment-là. Elle me dit, bon, bah, je monte et je serai avec toi au moins à ce moment-là.
D'accord.
Donc c'est rassurant et ça me permet d'un côté de relativiser et me dire, oui, ok, il se passe ça, c'est pas spécialement cool, j'avais pas spécialement prévu que les choses se déroulent de cette manière, mais c'est vrai, je suis dans un pays où je peux choisir, je vais choisir ce que je veux, ça va être un peu compliqué, mais j'ai déjà énormément de chance. Tout se passera bien, dans de bonnes conditions, donc allez, on y va, et c'est pas si grave que ça, entre guillemets. Et ensuite, du coup, j'ai rendez-vous avec mon gynéco une semaine après, et là, c'est très compliqué, parce que il m'ausculte pour voir si, du coup, la grossesse se progresse bien dans mon utérus, et il me confirme que oui, il me dit « Ah oui, il a bien grandi, le petit loup !»
Ah oui, d'accord.
Alors qu'il savait, c'était la même personne, il savait très bien que je ne voulais pas garder, je ne voulais pas poursuivre cette grossesse. Et là, je me dis, mais pourquoi il le personnifie ? Pourquoi il me dit ça ? Alors que... Enfin, j'ai trouvé ça très, très étrange et ça m'a un peu pris au cœur. Je me dis, mais il n'a pas le droit de me dire ça et de verbaliser la chose de cette manière, quoi. Mmh. Et en plus, du coup, il me dit... que je suis passée de 0... Enfin, le fœtus est passé de 0,4 mm à 1 cm. On me dit, ah oui, bah là, il se développe bien, quoi. Mais vous avez pas le droit de me dire ça, alors que je suis là, justement, pour avorter, et que vous le savez depuis le départ que ma décision est prise, et que la grossesse ne va pas se poursuivre, quoi. Ouais. Enfin, donc ça a été très... très violent pour moi. Je considère même que c'est, entre guillemets, une violence gynécologique. Et ensuite, il me dit, bon, ben, vous êtes à 8 semaines de grossesse, vous pouvez avorter par voie médicamenteuse. Votre terme est le 4 octobre. Donc, j'ai absolument pas besoin de savoir la date de mon terme, puisque je n'irai pas à terme. Enfin, donc, pareil, je me dis, mais pourquoi il me dit ça ? Et j'avais vraiment l'impression qu'il me donnait tous ces détails pour me convaincre que c'était peut-être pas la bonne décision, et que, regarde, il se développe super bien, qu'au mois d'octobre, il sera à terme. Et moi, je suis là, donc seule un peu, enfin, je dis, mais non, mais il a... Enfin, vraiment, c'était ça, il a pas le droit de me dire tout ça, c'est pas possible. Donc il continue, voilà, il me dit, bah, vous prenez un premier médicament maintenant qui stoppera la grossesse, et dans 48 heures, un autre médicament, mais soyez accompagnés, parce que là, ça va faire mal, quoi. Donc, ok, donc là, ça fait le troisième choc un peu que j'encaisse. Il me dit ça va faire mal. Si vous avez vraiment des douleurs qui sont très très fortes, vous prenez un autre médicament dont j'ai plus le nom, mais qui est pour le coup lui aussi très très fort. Et surtout ne vous levez pas quand vous le prenez parce que sinon vous allez tomber quoi. Donc en gros de la drogue, quelque chose de très très puissant qui va calmer mes douleurs, mais que à prendre quand même avec attention. Donc je me dis ok, donc là ça fait beaucoup pour dans 15 minutes de temps je pense. Où je me dis, ok, je vais souffrir le martyr, puisqu'il me, il me prévient que j'aurai besoin certainement d'antidouleurs qui me rendront complètement naze. C'est un peu compliqué, je sors de là. Je...
Là, t'es toute seule à ce rendez-vous.
Ouais. Ouais. Je suis toute seule et c'est un peu compliqué. Et je me souviens aussi d'une copine qui m'écrit, qui n'était pas au courant pour le coup, qui râle un peu parce que son plombier est pas venu. Je dis, mais en fait, on a vraiment pas les mêmes problèmes, quoi. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être confrontée à un vrai problème de la vie d'adulte, entre guillemets, alors que j'avais seulement 19 ans, entre guillemets. Ouais. Et je me dis, ouais, on n'a pas les mêmes problèmes, mais c'est pas facile, quoi. Et donc ensuite, ma mère arrive 2 jours plus tard.
Donc là, t'as déjà pris le premier.
Là, j'ai pris le premier médicament qui stoppe la grossesse et quelques saignements, mais... rien de bien exceptionnel. Et après, du coup, je prends ce deuxième médicament que je dois prendre toutes les 4 heures, il me semble. Un à midi, un à 16h et un à 20h. Et je le prends à midi, à midi 4. C'est atroce. Les douleurs sont très, 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 très fortes. Donc heureusement que ma mère est là. Vraiment, c'est un soutien incroyable. Donc ouais, j'ai très mal. Il m'avait prévenu et... Mais je pense qu'on se doute jamais vraiment à quel point ça, ouais. Ça peut l'être. Donc j'ai très mal et bon, bah, c'est par là qu'il faut passer, entre guillemets. Je ressentais aussi une profonde injustice en me disant si je suis en train de vivre ça, c'est par rapport à quelque chose qu'on a fait à deux. Mmh. Et il n'y a que moi qui en pâtis, quoi. Et je me dis, lui, il est tranquille, je ne sais où. Et...
Ouais.
Et ça a été un peu compliqué de me dire, mais moi je souffre, j'ai mal. Et lui, il a rien, il ressent rien. Enfin, physiquement, parce que je l'avais tenu au courant. Parce que j'estimais que c'était autant mon histoire que la sienne,
ouais.
À l'époque. Et je pense que j'avais besoin aussi de. Il se passait quelque chose de tellement, entre guillemets, énorme dans ma vie que j'avais besoin qu'il soit au courant, en tout cas à ce moment-là. Donc je me suis écoutée et je l'ai tenu au courant. Bon, il a pas spécialement montré quoi que ce soit, il a pas spécialement été présent. Donc j'ai dû, entre guillemets, assumer tout ça
ouais.
Toute seule. J'aurais apprécié un peu plus de...
Un peu de soutien.
Un peu de soutien ouais. Et ça a été sûrement à sa manière. On était jeunes aussi tous les deux et c'est pas évident aussi quand on t'apprend quelque chose comme ça, je le conçois, mais je pense que celle qui souffrait le plus, c'était moi.
Mm-hmm.
Donc j'aurais ouais, apprécié un peu plus de soutien. Après, la vie a fait que les choses se sont déroulées comme ça, mais ça a rajouté quand même quelque chose supplémentaire à tout ça, à cette période un peu compliquée. Mais justement, ma mère m'avait envoyé un message en me disant que le soleil revenait toujours après la tempête, puisqu'à ce moment-là, j'ai sorti mon premier livre, qui est sorti 2 jours après que j'ai appris cette grossesse, entre guillemets. Je sais pas trop comment verbaliser tout ça, peut-être que j'utilise pas les bons mots, mais... Et du coup, je me suis dit, c'est vrai, je vis peut-être quelque chose d'un peu terrible pour moi, en tout cas, ouais. À ce moment-là. Mais le soleil revient toujours et ça va aller, quoi. Ça va aller
Et alors, au niveau des douleurs, ce jour-là, comment ça se passe? Est-ce que ça dure des heures à chaque fois que tu prends le cachet?
Ouais, c'était terrible parce que au moment où ça se calmait un petit peu, je devais reprendre le médicament suivant qui allait encore me replonger dans des douleurs extrêmes. Où c'est des contractions parce que il faut expulser... l'embryon, donc c'est des très très fortes contractions, des douleurs de règles multipliées par 1000 et quand ça commence à se calmer, il y en a une autre qui arrive parce qu'on vient de reprendre l'autre médicament et que voilà, donc c'est ton corps te fait vraiment ressentir tout ça quoi, tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est clairement exprimé. Et ça rend la chose un peu plus traumatisante.
Ouais.
Parce que auparavant et encore maintenant, on n'a jamais connu des douleurs comme ça. Et pour rien au monde, je voudrais reconnaître des douleurs de cette sorte. Mais je me dis que de toute façon, là, je suis lancée et je dois juste subir en attendant que ça se calme et prendre, entre guillemets, mon mal en patience. Et à aucun moment, encore une fois, je me suis remise en question sur ma décision, sur mon choix. Je savais très bien que je faisais justement... j'allais dans la bonne direction et que je faisais le bon choix. Donc, je pense que ça aussi, ça m'a aidée. Il n'y a jamais eu un moment de regret ou un moment de doute. Mais est-ce que t'es bien sûre de ce que tu fais? Voilà, j'avais 19 ans. Aucune situation financière stable, aucune situation professionnelle stable et aucune situation amoureuse stable. C'était vraiment pas les conditions adéquates pour accueillir, en tout cas pour moi, un enfant. Ça reste vraiment la vision que j'ai. Et la vie, c'est pas cette vie-là que je voulais leur offrir. Donc, je pense que ça m'a aidée à tenir sur le long terme ces douleurs, etc.
Et ça a duré combien de temps?
Toute l'après-midi, enfin vraiment. Et après, il m'avait prévenu que forcément, j'allais expulser du sang et que ça allait pouvoir continuer dans la semaine et que le flux pourrait être assez conséquent, sachant que moi, j'ai déjà des règles abondantes. Donc il m'a dit, voilà, ne vous faites pas spécialement peur. C'est normal qu'il y ait un flux de sang important. Et ça aussi, c'est quand même assez traumatisant parce que même si je m'étais préparée, je m'attendais pas à autant, quoi. Après, surtout quelques jours après, quand ça allait un petit peu mieux, je suis allée travailler. Je travaillais à l'époque, j'avais un job d'hôtesse d'accueil au Parc des Princes. Et je me souviens être allée acheter des couches parce que, à la pharmacie parce que ça...
Ça ne s'arrêtait pas.
Enfin, il m'avait dit, si vraiment ça vous inquiète et que ça fait un peu hémorragie, allez aux urgences. Mais voilà, ça reste normal qu'il y ait un flux abondant, quoi. Mais ça reste un peu traumatisant de voir autant de sang et autant de douleurs, le tout cumulé et le trop plein d'émotions, même si c'est indépendant à chacun. Et j'ai une copine qui a avorté à ce moment-là aussi, qui a très bien vécu la chose, et c'est pour ça, c'est très indépendant à chaque femme et l'histoire qu'on a avec tout ça, quoi. Mais en fait, une fois qu'on est dedans, il faut faire les choses. Voilà, j'ai eu ça. Après, j'ai dû prendre ces médicaments pour expulser en prion. Après, il y a eu ces saignements. Enfin,
t'as su quand il avait été expulsé ou pas?
Ouais. Je l'ai vu sur ma serviette hygiénique. Et il m'avait prévenu ça aussi, que je pouvais... Ça a été aussi un peu traumatisant, et d'un autre côté, je me suis dit, ok, c'est bon, quoi. Enfin,
voilà. Ça y est, c'est fait.
Ça y est, c'est fait. Même si c'est pas facile, voilà, là, j'y suis arrivée, quoi. Donc ça a été un enchaînement d'événements où, au final, on a un peu la tête dans le guidon et on fait les choses mécaniquement parce qu'on doit les faire. Et après, ça a été un peu compliqué, surtout quand ma mère est partie, a dû rentrer. J'avais l'impression de me retrouver complètement seule. Et ça a été, je me souviens, très compliqué parce que je me disais, mais comment je vais y arriver toute seule, alors qu'en soi tout était déjà fait, mais je me disais, j'avais l'impression qu'elle m'abandonnait, alors que c'était pas du tout le cas, quoi. Mais je me disais, mais je vais retourner chez moi là, toute seule, comment ça va se passer? Et j'y repensais beaucoup, et encore une fois, c'est très très contradictoire, parce que j'ai toujours été hyper sereine avec ma décision, je le répète depuis le début, mais... Donc je recevais des émotions que je comprenais pas spécialement, parce que, encore maintenant, j'ai pris, je suis certaine, la meilleure des décisions, quoi. Et j'avais déjà beaucoup d'émotions, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, et donc ça m'a vraiment remuée. J'avais, je pense, besoin aussi de quitter Paris un petit peu pour m'évader... de tout ça, et ma meilleure amie m'a dit, bon, on part à Rome, un week-end à Rome, et ça va nous faire du bien et te changer les idées. Et ça a été tellement réparateur, au final. J'ai pu prendre un autre grand bol d'air, et il y avait une ambiance tellement apaisante là-bas, l'air était doux. Mais cette ville, du coup, représente maintenant beaucoup, beaucoup pour moi, puisqu'elle m'a aidée. Alors, je ne sais pas de quelle manière vraiment, mais ce week-end est arrivé au bon moment et m'a fait le plus grand bien. Et après, ben voilà, la vie reprend son cours aussi. Ça fait partie de mon histoire. J'en suis aussi fière parce que j'ai surmonté tout ça toute seule, même si j'ai été très très bien entourée. Et qu'encore une fois, je suis tellement reconnaissante d'avoir des proches aussi bienveillants et qui m'ont apporté et soutenu tellement pendant cette période-là et sur qui je sais que je peux compter en toutes circonstances. Donc voilà, j'étais pas à plaindre. La vie allait continuer. J'allais avoir ça en plus dans mon bagage. Ça allait m'offrir encore un peu plus de maturité et je me suis sentie grandie vraiment avec tout ça. Toujours avec cette appréhension que ça recommence parce que j'avais pas les réponses à mes questions.
Mais oui.
Comment aborder d'autres relations sexuelles sans avoir peur.
C'est ce que j'allais te demander, quelles étaient.
Sans avoir peur de retomber enceinte. J'avais lu rapidement sur internet que c'était moins probable de tomber enceinte lorsqu'on avait ses règles. Enfin, en tout cas, d'avoir un rapport sexuel pendant nos règles. Donc je me dis, en fait, ça va être la seule solution pour moi, sauf que je me voyais pas. Enfin, voilà, ça a été très compliqué de.
Mais t'avais une vraie appréhension.
Ouais, parce que pour le coup, avec ce qui m'était arrivé, j'assimilais rapport sexuel à grossesse, quoi. Puisque c'était arrivé une fois, je m'étais dit que ça pouvait forcément arriver une seconde fois. Enfin, en tout cas, ça potentiellement se reproduire. Donc je pense que c'est aussi beaucoup dans la tête et je me suis dit, écoute, j'avais aussi lu quelques témoignages. Je sais que dans ma famille, on est très fertile puisque je suis née sous pilule.
Ah, d'accord.
Ma mère m'a eu sous pilule. Dans ma famille, mes cousines aussi sont très très fertiles. Donc voilà, je me dis, écoute, t'es comme ça, t'as un patrimoine génétique qui est comme celui-ci. Et puis voilà, c'est arrivé une fois, peut-être faute à pas de chance, et ça n'arrivera plus puisque de toute façon, t'es protégée. Donc voilà, après j'ai abordé mes autres relations sexuelles de cette manière jusqu'à ce que ça se reproduise une seconde fois l'année dernière en 2021 du coup, où j'ai un second rapport protégé encore une fois.
Donc là t'es toujours sous pilule ou t'as changé?
Non, je suis toujours sous pilule à ce moment-là et ça se reproduit une seconde fois. Et là, je me dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je me dis, c'est pas. Enfin, je suis pas maîtresse de ce qui se passe. Parce que moi, je mets tout en place pour que ça ne se produise pas. Dans mon corps, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'à un moment, ça ne fonctionne pas. Mmh. Et bizarrement, je me doute très tôt que je suis enceinte. Mmh. Parce que je regarde mon application et j'ai eu ce rapport avec ce garçon le jour de mon ovulation. Et dans ma tête, ça me refait tilt comme la première fois.
Ouais.
Et je me dis, ok, là, il y a de fortes chances que je sentais des... En fait, je pense que ce premier avortement m'a beaucoup appris... En tout cas, m'a appris à écouter mon corps, puisque j'avais eu ce bleu sur mon mollet, où je me dis, bon, ça, c'était un appel, entre guillemets, en disant, attention, en tout cas, une alarme. Il se passe quelque chose d'être anormal. Donc vraiment, j'étais beaucoup plus à l'écoute de mon corps. Et c'est peut-être stupide et dans ma tête, mais le lendemain de ce rapport avec ce garçon, j'ai des petites bulles dans le ventre. Donc je me dis, ok, c'est possible que je vais prendre la pilule du lendemain. Alors que le rapport est protégé.
Ouais, encore une fois, pilule, préservatif.
Le rapport est protégé, donc normalement, aucune raison. Enfin, la plupart des jeunes femmes de mon âge et des femmes en général ne se posent même pas la question. Enfin, mais moi, avec l'histoire que j'avais eue auparavant, ça me met la puce à l'oreille, je pense, un instinct aussi, de me dire que peut-être ça peut se reproduire. Je prends la pilule le lendemain, encore une fois, la pharmacienne est très rassurante en me disant qu'il n'y a aucun problème, que ça fonctionne très bien, que je la prends dans les temps et qu'il n'y a aucun souci. Je fais un test pour me rassurer parce que c'est dans ma tête tous les jours. Je lis sur internet, pareil, que je peux le faire à 10 jours après le rapport et qui peut s'avérer être fiable. Donc je le fais, sauf qu'il est négatif, mais c'est parce qu'il est trop tôt encore pour détecter du coup le taux suffisant
D'accord.
dans mon urine. Et le jour de mes règles, elles ne sont pas là. Donc je vais faire un test qui est dans un premier temps entre guillemets négatif puisqu'il n'y a qu'une barre. Et je me dis, ah bah ok, donc c'est pas ça. Et 2 minutes après, il y a une légère autre barre qui apparaît. Et du coup, je sais pas trop, puisque j'avais eu cet épisode vraiment où c'était clair et définitif avec cette croix tracée. Et là, c'est un peu plus subjectif. Donc, je descends voir ma pharmacienne et elle me dit, non, là, vous êtes enceinte. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Là, je me dis, c'est pas possible. Elle me dit, il y a une PMI pas très loin, allez voir. Mais bon, on est en plein mois d'août, ça va être compliqué, quoi.
Eh oui.
Et là, on est le mardi. Et le samedi, je dois redescendre dans le sud chez mes parents. Et je me dis, il faut que ça se fasse dans ce laps de temps-là. Il n'y a aucune autre solution possible. Et là, pareil, en fait, mon cerveau se met en mode action. Je sais comment ça se passe. Je sais les étapes par lesquelles je vais passer, justement, ce qu'il faut faire, dans quel temps il faut que je le fasse. Et voilà, il faut juste que samedi je sois dans mon train et que ce soit terminé. Pareil, il me vient même pas l'idée de prévenir la personne avec qui ça s'est passé parce que c'est pas du tout ma priorité. Même quand j'en parle un peu à des copines, j'occulte le fait que ce soit avec cette personne parce que c'était pas du tout ça l'important à ce moment-là.
Ouais.
Alors que pour le premier avortement, j'ai apporté beaucoup plus d'importance à la personne avec qui ça s'était passé. Là, pas du tout, je me mets vraiment en mode action et il faut faire les choses rapidement surtout. Et du coup je vais à la PMI que ma pharmacienne m'a conseillé et là il y a personne. Donc enfin il y a personne en tout cas en salle d'attente et tout, donc j'ai tous les professionnels de santé pour moi et où je peux parler. Et je suis accueillie par des femmes extraordinaires et vraiment elles ont fait énormément pour moi et en tout cas à ce moment-là de ma vie parce que j'avais eu l'expérience de ce gynéco pas du tout diplomate et très bourrin, qui prenait aucune pincette et au contraire qui me culpabilisait plus qu'autre chose. Et là, je suis prise en main par des femmes qui m'écoutent et qui mettent enfin des mots sur ce qui se passe. En tout cas, qui supposent et au final qui s'avéreront être vraiment ce qui se passe dans mon corps. Où elles me disent qu'il y a certaines femmes, en tout cas, qui le jour de leur ovulation est tellement importante qu'elle absorbe la contraception, donc ma pilule. Et que du coup, chez certaines femmes aussi, la fécondation se fait immédiatement. Il n'y a pas 24 ou 48 heures après où la pilule le lendemain pourrait du coup stopper cette ovulation.
Ah oui, d'accord.
Moi, dès qu'il y a contact entre spermatozoïde et ovule, il y a fécondation. Donc au final, la pilule le lendemain ne peut rien faire face à ça. Et donc là, je me dis, ok, là je comprends un peu mieux le pourquoi du comment ça se passe, pourquoi ça s'était passé comme ça. Et j'étais dans une période de ma vie où j'étais pas très bien, puisque j'avais passé un très mauvais été dans ma tête. Enfin, c'était pas la meilleure période de ma vie. Et elle l'a dit d'une façon très poétique que j'ai pas du tout pris mal comme j'aurais pu le prendre il y a 3 ans auparavant, où elle m'a dit que mon corps a voulu mettre un peu de vie dans ma vie. Parce que j'étais dans une période un peu pas facile, un peu sombre, et c'était la lumière qu'on voulait me donner, mais elle me disait c'est pas grave, c'était juste pas le bon moment aussi. Mais voilà, votre corps maintenant il fonctionne de cette manière. Vous avez une recharge ovarienne en tout cas très très importante. Il n'y aura aucun problème pour vous, la preuve, pour faire des enfants. C'est pas le bon moment, c'est pas grave. Et elle m'a tellement rassurée en me disant que voilà, votre corps il fonctionne comme ça, vous devez faire avec et on va mettre en place des solutions pour que ça n'arrive, enfin en tout cas que ça n'arrive plus et que vous soyez un peu plus maître de tout ce fonctionnement.
Mais oui, là au moins t'as des réponses.
Là j'ai des réponses enfin,
des choses concrètes.
À toutes ces interrogations, je comprends comment mon corps marche. Et ça me soulage d'un poids. J'en oublie même les étapes qui vont suivre.
Ouais.
Parce que là, je suis dans cette pièce avec ces deux femmes avec qui je discute pendant 1 heure où je peux leur... vraiment, j'ai l'impression que je peux tout leur dire et qu'il n'y aura aucun problème. Et elles m'expliquent, voilà, comment... alors, il n'y a pas pas de preuves scientifiques, puisqu'on ne m'a pas examinée, voilà. Mais au vu de la situation, elles m'ont donné ces réponses qui semblent être totalement en adéquation avec ce qui se passe chez moi. Et je suis soulagée, mais à un point où je me dis... J'ai l'impression qu'il y a vraiment un poids qui est parti que je ressentais pas tellement, même si j'avais des interrogations. Mais là, enfin, il y a des mots sur mes mots.
Mmh.
Et ça me fait un bien fou. Et ensuite, j'arrive à trouver un rendez-vous pour le lendemain, donc chez un médecin généraliste qui pratique les avortements par voie médicamenteuse. Donc, je sais comment ça se passe, encore une fois. Et là, par contre, je lui dis « je veux changer de contraception ». Parce que je ne veux pas reprendre le risque, surtout que voilà, elle m'expliquait que mon ovulation pouvait absorber cette contraception. Donc il était hors de question que je reparte dans tout ça. Et elle me montre une espèce de tableau, en tout cas des chiffres qui montrent que le stérilet serait quand même bien plus adapté à ma situation et que en pratique et en théorie, le stérilet était quand même bien plus efficace que la pilule. Que la pilule peut convenir à des femmes, enfin à des milliers de femmes. Mais moi, avec le bagage que ouais. j'ai et la fertilité aussi que j'ai, elle pense que le stérilet serait quand même beaucoup plus adapté. Moi-même, je serais beaucoup plus rassurée. Et j'ai enfin voilà, l'impression que tout s'aligne et que tout se débloque et que voilà, mon corps il fonctionne comme ça. Bah, c'est, voilà, j'ai pas le choix. Il y a quand même des solutions. Le stérilet va pouvoir m'apaiser et me rassurer sur certains... pour en tout cas appréhender mes relations sexuelles différemment. Et voilà, tout se résout petit à petit. On m'écoute, on a un regard hyper bienveillant sur mon histoire, parce que même si j'en avais pas honte du tout, je reviens pour un deuxième avortement quand même.
Ouais.
Et ça me pesait un petit peu de me dire, mais qu'est-ce qu'on va penser, entre guillemets, de moi? Je sais très bien que l'avortement, c'est pas un moyen de contraception. Justement, puisque je mets tout en œuvre pour pas le vivre, et au final, bah, ça me tombe dessus. Je suis complètement consciente de tout ça, mais là, on m'écoute. Et on m'écoute vraiment, en plus. Et on me juge pas, et on me rassure en me disant que ça arrive à bien plus de personnes que ce que je ne pense. Et que c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, on va s'en occuper. Et on a trouvé des solutions, et c'est le plus important au final. Donc je prends encore une fois ce premier médicament qui va stopper du coup la grossesse. Et là c'est un petit peu différent, puisque 2 jours plus tard je prends qu'un seul médicament.
Okay.
Alors que la première fois j'en ai pris 3.
Ouais.
Mais sauf qu'elle me prévient que je suis en tout début de grossesse et que l'IVG peut ne pas fonctionner parce que trop précoce.
Ah d'accord.
Parce que je pouvais pas faire d'échographie parce que j'étais pas encore assez avancée dans la grossesse pour qu'on voie quoi que ce soit à l'échographie. Donc elle me prévient qu'il y a des risques que ça ne fonctionne pas. Donc est-ce qu'on veut y aller ou pas? Et là, je me dis, c'est pas possible.
Ouais.
Là, encore un coup derrière la tête, et je me dis, non, de toute façon, on y va. Je pense que j'aurais regretté de ne pas essayer à ce moment-là. Et puis de toute façon, c'est impossible. Je rentre dans le sud pour une semaine, je peux pas rester comme ça, c'est vraiment impossible. Elle me dit ça, donc j'accuse le coup encore une fois, je pleure dans la rue. Il y a une mamie qui passe, qui me demande si tout va bien. Je dis oui, mais ça va aller. Je me dis ok, allez. Je l'ai déjà fait une fois, je peux le refaire une deuxième fois. Et je me regarde, il y avait un miroir dans la rue, et je me regarde droit dans les yeux, et je me dis on va le faire. Je parle un peu, ça paraît un peu stupide comme ça, mais je parle à mon corps.
Pour te donner du courage, à moi-même, affronter les douleurs.
Je me dis on va le faire, tout va bien se passer, et ça va aller encore une fois. Et du coup je prends ce deuxième médicament, et elle me prescrit aussi des antidouleurs à prendre une demi-heure avant, pour éviter que ce soit trop douloureux. Et ça a changé radicalement la donne de cette IVG, puisque j'ai souffert, mais beaucoup, 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 beaucoup moins que le premier. J'attendais là qu'une chose, c'est de saigner, parce que qui voulait dire saignement dit avortement en cours, entre guillemets. Donc qui voulait dire que ça fonctionne.
Ouais.
Donc j'attends 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de saignement. Et après je me lève pour aller aux toilettes, et là je vois un peu de sang sur ma culotte, et là je me dis ok, enfin super, Enfin, ça se passe comme ça devait se passer. Et je souffre, mais vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup moins. C'est beaucoup moins traumatisant. Je saigne beaucoup moins que le premier. Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi. J'ai des saignements tout au long de la semaine et les jours qui vont suivre, mais beaucoup moins abondants que la première fois. Et elle me prescrit du coup une prise de sang à faire pour voir si mon taux a bien diminué. S'il a diminué de moitié, ça veut dire que l'avortement a fonctionné comme il fallait. Et du coup, voilà, ça se passe assez fluidement. Pas de douleur atroce, pas quelque chose de traumatisant. Et le lendemain, je prends mon train et je rentre chez moi. Cette semaine dans le sud va me faire un bien fou aussi. J'ai l'impression de déconnecter, de reprendre un nouveau souffle. Je fais cette prise de sang où ça a diminué même de 3/4, donc je me dis ok, super. Et une fois que je suis remontée à Paris, j'ai rendez-vous avec une sage-femme. Parce que je décide à ce moment-là de me faire suivre par une sage-femme qui, pour moi, me comprendra mieux. Mmh. En tout cas, une amie avait décidé de faire ça aussi, elle m'en avait dit que du bon. Donc je m'étais dit, je pense que ça sera bien plus cohérent avec ce que j'ai vécu. En tout cas, d'avoir son oreille à elle et son expertise peut-être me rassurera aussi. Et là, pareil, c'est la révélation. Je lui raconte tout, elle me rassure, ou elle confirme les propos du coup que j'avais eu à la PMI en me disant que l'explication, elle pouvait être celle-ci. Et que voilà, on va poser un stérilet et que normalement, tout devrait bien se passer. Et à partir de ce moment-là où elle me pose le stérilet, j'ai l'impression que ma vie change.
Ouais.
J'ai l'impression de revivre, d'avoir quelque chose là dans la poitrine qui est parti. Et de me dire, c'est stupide, mais ma vie commence enfin, sans me soucier. Alors qu'elle me dit, grossesse ou stérilet, c'est possible aussi, mais quand même bien moins. Et du coup, je suis rassurée. Ouais. Je suis juste rassurée, en paix enfin, avec tout ça. Et j'ai l'impression vraiment qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Donc elle me dit, vos règles vont être quand même un peu plus douloureuses, peut-être un peu plus abondantes aussi, mais bon, voilà, à part ça, alors oui, mes règles sont bien plus douloureuses que quand j'étais sous pilule, mais je suis tellement contente de ressentir tout ça dans mon corps, que mon corps se prépare justement aux règles, se nettoie, et de ressentir tout ça, que ce que je ressentais pas du tout sous pilule, j'avais des règles pas spécialement douloureuses, et là, au contraire, je suis contente que mon corps fonctionne de lui-même. Et je suis rassurée dans ma vie sexuelle aussi. Ouais. Enfin, c'est vraiment un poids en moins. Et je me sens plus soulagée. Je maîtrise plus de choses, j'ai l'impression. Et j'ai moins cette appréhension de tomber enceinte. Mm. Et ça aura vraiment changé la donne sur plein de choses dans ma vie aussi. Et je me dis, bon, bah, ce deuxième avortement, il a été là pour une raison. Et pour une bonne raison. Maintenant, je connais mon corps. Et c'est déjà énorme. Je sais comment il fonctionne. Et c'est une richesse incroyable. Je peux pas faire autrement, mais c'est vrai que parfois, quand on se compare à certaines de ses amies, ou voilà, ou même quand j'entends des femmes pour qui c'est un parcours du combattant de tomber enceinte, et je suis tout cœur avec elles, mais c'est ce que je disais du coup à cette femme, à la PMI, je me rends compte que ça peut être un parcours vraiment très douloureux, qui peut prendre des années et tout, mais c'est pas aussi facile de tomber enceinte trop facilement.
Ouais, quand c'est pas désiré.
Quand c'est pas désiré et qu'on met tout en place pour que ça n'arrive pas, voilà, je tombe enceinte entre guillemets trop facilement, et c'est pas facile non plus. Mmh. Mais je peux comprendre. Et je suis tout cœur avec toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour avoir un enfant et espérer tomber enceinte un jour. Mais voilà, au final, il y a deux cas extrêmes qui sont pas faciles non plus. Et moi, je l'ai un peu mal vécu, ça, de me dire, mais je ne veux pas, je ne fais tout pour que ça n'arrive pas, et ça arrive quand même. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour stopper ça? Enfin... Donc après, ça a posé plein de questions et je me renseigne sur le fait de faire des dons d'ovocytes, ce qui me tiendrait aussi beaucoup à cœur, puisque je sais que ça peut aider de nombreuses femmes, mais j'avais un peu cette injustice-là de me dire j'ai pas choisi d'être aussi fertile.
Tu culpabilisais par rapport à ces femmes qui galèrent
Beaucoup. Alors que voilà, c'est vraiment un cheminement difficile. Pour moi, ça l'est pas, je le veux pas. Comment je fais, enfin, ça, même là, quand j'en parle, c'est un peu brouillon parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans ma tête. Sans vouloir froisser toutes ces femmes qui se battent au quotidien pour pouvoir tomber enceinte. Mais moi, mon histoire fait que c'est pas facile non plus de tomber enceinte trop facilement quand on le souhaite pas. Alors j'ai une chance énorme parce que je sais que le jour où j'en voudrais, ça sera peut-être pas spécialement compliqué. Mais c'est pas aussi simple que ça non plus. Parce que pour le moment, en tout cas dans ma vie actuelle, grossesse ne rime pas avec bonheur. Alors je sais que ça rimera plus tard, puisque comme je le disais au début, je rêve d'être maman un jour et de fonder ma famille et que j'aurai réussi ma vie à ce moment-là. Mais ce moment-là, c'est pas maintenant.
Ouais.
Et j'aimerais pouvoir décider de ce moment et pas que ça arrive sans que je le souhaite, quoi.
Justement, on parle beaucoup du droit à l'avortement qui a été remis en question aux États-Unis notamment. Toi, est-ce que tu as pensé à tout ça au moment où ça t'est arrivé? Est-ce que tu as senti ce poids de la société sur...
J'avais un peu ce regard-là avec ce gynécologue, du coup. J'avais l'impression qu'il m'incitait plus à prendre une autre décision. J'avais regardé certains documentaires, pareil, qui... Parce que j'avais écrit, je suis journaliste et j'ai toujours beaucoup écrit et j'aime écrire quand ça ne va pas.
Mmh.
Et j'avais écrit une lettre sur ce qui m'était arrivé et j'avais vu un forum de femmes qui avaient avorté ou pas, enfin voilà. Et j'avais demandé si je pouvais partager ce que j'avais écrit, parce que c'était pas vraiment sur mon histoire à moi personnellement, mais voilà. Et on m'avait un peu... en me disant, mais entre guillemets, vous avez pas honte de revendiquer ça, alors que certaines ont dû avorter, pas pour les bonnes raisons, alors que vous le faites en pleine conscience, en gros, vous n'êtes pas la bienvenue ici, quoi. Alors que c'était un forum pour des femmes ayant avorté, hein. Donc j'estime que même si on le fait pas pour les mêmes raisons, on vit quand même plus ou moins la même chose, en tout cas physiquement. Et voilà, puisque moi, mon choix était délibéré et propre à moi, bah j'avais pas ma place là-bas, enfin dans à l'intérieur de ce cercle de femmes, donc je me suis dit bon bah d'accord, c'est pas grave, mais après j'ai pas spécialement ressenti parce que je l'ai pas non plus, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes et toutes les personnes qui sont au courant ont les mêmes convictions que moi, donc j'ai pas eu ce regard là. Plus quand je suis tombée enceinte une deuxième fois, où là je me suis dit, oh là là, une deuxième fois, qu'est-ce qu'on va dire de ouais. Moi.
Ça peut être un peu la sotte qui a pas fait attention.
C'est ça. Et la première fois, c'était un peu ce qui m'était venu, parce que voilà, j'imaginais cette fille un peu perdue, seule, qui tombe enceinte à 19 ans, alors que malheureusement ça arrive. Mais je me disais, j'avais l'impression un peu de passer pour cette fille-là. Parce que c'est un peu ce qu'on peut voir dans certains, même à la télévision ou dans certains films, qu'elle tombe enceinte trop jeune. Et donc j'avais un peu cette image-là. Mais la deuxième fois, j'étais tellement bien entourée. Et j'ai tellement été écoutée par des personnes bienveillantes qui m'ont aiguillée, qui m'ont conseillée et qui m'ont donné des vraies réponses et qui m'ont comprise avec mon histoire... et tout ce que j'avais vécu avant, que j'ai pas eu ce regard-là. Mais en tout cas, c'est sûr que ce que j'ai vécu m'a engagée 2 fois, 3 fois, 4 fois plus dans cette cause-là. Et où je me dis, mais c'est peut-être un peu radical ce que je vais dire, mais qu'aucun homme ne peut donner son avis sur ça. Parce qu'aucun homme ne le vivra. Et c'est vraiment ce que j'avais ressenti la première fois, du coup, quand je me disais, mais moi je souffre et lui, il pourra jamais comprendre et jamais se mettre à ma place parce qu'il le vivra jamais, quoi. Et je me dis, comment on peut laisser des personnes qui ne connaîtront, qui ne passeront jamais par là, juger de telles lois sur le corps d'une femme, quoi. Ça me met complètement hors de moi, parce qu'ils se rendent pas compte ce que ça peut être, et ils s'en rendront jamais compte, et qui donnent autant leur point de vue et leur avis sur ça, ça me met hors de moi. Et juste laisser les femmes faire ce qu'elles ont envie, enfin, je pense qu'elles savent prendre les décisions et les bonnes décisions pour elles-mêmes et laisser-les en paix. Enfin, ça ne va ne faire accentuer que ce qu'on a pu, enfin, que nos aînés ont pu vivre avant avec les avortements clandestins, et ça va être encore plus meurtrier, alors que là, si on nous laisse le choix de vivre la vie qu'on veut vivre, tout ira bien. Donc oui, forcément, ça m'a impliquée et engagée bien plus dans cette cause-là, même si j'ai toujours été profondément féministe, mais cette cause en particulier de l'avortement me touche et me bouleverse. Quand voilà, j'ai appris la nouvelle aux États-Unis, j'étais au bord des larmes et je me dis, mais comment c'est possible, ils ont pas le droit, quoi. À un moment, laissez-nous prendre les décisions qu'on souhaite et ne nous jugez pas, quoi. Vous avez pas le droit, vous le connaîtrez jamais. Moi, c'est vraiment ce côté d'injustice qui me touche et qui me blesse, quoi. Pourquoi je pourrais être moins considérée qu'une autre parce que je prends d'autres décisions, quoi. Et honnêtement, encore aujourd'hui, je sais que j'ai pris les bonnes décisions.
C'est ce que j'allais te demander aujourd'hui avec quelques années de recul.
Ah oui, j'ai pris les bonnes décisions. Et même aujourd'hui, je ne me le souhaite pas, mais si ça m'arrive encore une fois, je prendrai la même décision parce que je n'ai pas encore acquis le niveau de vie que je veux offrir à ma famille. Et je suis en paix complètement avec ça. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi. Je me suis souvent demandé si je devais en parler à mon copain ou... Pour le moment, j'en ai pas ressenti le besoin. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit... ça fait aussi partie de mon jardin secret. Mais qui implique... en tout cas, cette histoire se mêle à ma vie sexuelle. Donc,
ouais.
un peu compliqué. Mais j'avais peur de... Bah, qu'il ait peur, justement. Qu'il puisse avoir peur de se dire que, potentiellement, un rapport sexuel pouvait être... égale à une grossesse, etc. Donc il y a eu des questions qui se sont posées dans ma tête, se verbaliser ce qui s'était passé ou pas, ou c'est quand même quelque chose de très intime au final. Mais aujourd'hui, je ne regrette absolument pas les décisions que j'ai prises. Je sais que j'ai prises justement les bonnes décisions, que si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, et qu'il faut simplement s'écouter. C'est pas parce que moi j'ai fait ça que tout le monde doit le faire. Mais voilà, s'écouter, moi à ce moment-là, c'était vraiment pas le bon moment. Maintenant, je sais comment mon corps fonctionne et pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Et voilà, mais c'est vrai qu'on est très différentes au final d'une femme à une autre. J'ai une amie qui prend pas de contraception, quoi. Moi, si j'étais dans ce cas-là, j'aurais une équipe de foot déjà. donc voilà, on est très différentes, savoir s'écouter. Mais aujourd'hui, je suis en paix avec mon histoire. J'en suis même. Fière, elle m'a rendue vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus mature aussi, parce que j'ai été seule, même si très bien entourée, mais je me suis retrouvée seule face à tout ça. Personne vraiment dans mon entourage proche n'avait déjà vécu ce que j'ai vécu, donc voilà, j'ai appris que je pouvais au final compter que sur moi-même et que mon meilleur allié, bah, c'était moi et mon corps. Et maintenant, voilà, je suis beaucoup plus à son écoute. J'en prends beaucoup plus soin, dans le sens où il peut faire des miracles. Et voilà, je suis pleinement consciente de plein de choses maintenant que peut-être j'étais moins auparavant. Et ça m'aura appris. Je me suis rencontrée au final. Voilà.
Merci beaucoup Blanche.
Merci à toi.
Un grand merci d'avoir écouté Le Tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.